est au centre de recherches secrets en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Dans ce monde où votre pays joue le rôle majeur, personne, ami ou adversaire, ne peut agir sans tenir compte des États-Unis d'Amérique. Et cette puissance confère à vos décisions une importance dans les affaires de la planète.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, nous voilà prévenus et avec quelle virulence. Le président Donald Trump, à peine entré en fonction, confirme parmi un flot de propos débridés les sentiments d'hostilité à l'Union européenne qu'il a exprimés durant sa campagne. Il salue le Brexit comme, je cite, « une chose géniale ». Il accable l'Union de son mépris. L'Union est en gros, dit-il, un simple instrument pour l'Allemagne. Et c'est pourquoi la Grande-Bretagne a eu bien raison d'en sortir. Et il pronostique que d'autres pays quitteront bientôt l'Europe de Bruxelles. Le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, qui visiblement ne partage que son prénom avec le nouveau chef de la Maison Blanche, Donald Tusk vient de manifester publiquement que les propos venus de Washington rendaient l'avenir de notre continent, je cite encore, hautement imprévisible. En particulier, à cause de la mise en cause par Trump de l'OTAN, qui protège la liberté de l'Europe occidentale depuis 1949 et qui est jugée par lui obsolète. Faut-il donc nous préparer à une rupture historique dans le cours des relations diplomatiques et militaires entre l'Amérique et l'Europe? Nous allons ce matin évoquer les traits majeurs de cette histoire depuis deux siècles. Une histoire heurtée qui a été faite dans cette longue durée de bien des affinités et incompréhensions, complicités et violences, rapprochements et distances prises déjà. Je me félicite que mon invité soit ce matin Justin Weiss, qui dirige le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie au Quai d'Orsay. Il est un spécialiste reconnu des relations transatlantiques. Il a enseigné notamment à Sciences Po, à l'Université de Paris 3 et à l'Université Johns Hopkins de Washington.
Pour Donald Trump, le Brexit sera un succès. Le président élu va plus loin et prédit même la sortie d'autres pays de l'Union européenne. Sur les questions de défense, sa position n'a pas changé. Il remet en question l'efficacité de l'OTAN et menace de remettre en cause l'obligation de solidarité entre pays membres.
J'ai dit il y a très longtemps que l'OTAN avait des problèmes. En premier lieu, qu'elle était obsolète, parce qu'elle a été conçue il y a des années et des années. Deuxièmement, les pays membres ne payent pas ce qu'ils devraient.
En qui avez-vous le plus confiance ? Merkel ou Poutine ?
Je commencerai en faisant confiance aux deux. Puis, je verrai combien de temps ça dure. Ça pourrait ne pas durer du tout.
Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les rapports entre Washington et Moscou vont changer avec l'arrivée de Donald Trump. Lors de l'interview, le président élu a évoqué un possible accord sur une réduction des armements nucléaires avec la Russie en échange d'une levée des sanctions.
Justin Weiss, bonjour.
Bonjour.
C'était une archive de France 24, le 16 janvier 2017, peu de temps avant la cérémonie d'intronisation du nouveau président. Nous sommes familiers, nous autres historiens, de la fameuse opposition entre rupture et continuité. En l'occurrence, c'est vraiment la rupture qui frappe.
Oui, alors peut-être pas tant sur l'OTAN, je suis un peu sceptique sur une rupture avec l'OTAN, même si ce que dit Donald Trump nous plonge dans la problématique de ce matin, c'est-à-dire la défense de l'Europe, avec le vieux débat entre de la répartition du fardeau de la défense européenne entre des Américains qui veulent payer moins, et ça c'est une obsession de Trump depuis les années 80, répétée, constante, d'un côté, et de l'autre des Européens qui veulent avoir davantage de responsabilités. La rupture, elle se situe sans doute davantage autour de l'unification de l'Europe, parce qu'après tout, c'est le premier président américain, depuis Truman, depuis 1945, qui non seulement ne soutient pas l'unification européenne, mais la conteste ou fait vœu de la miner ou de désosser l'Union européenne. Après tout, il l'appelle au Brexit et il a nommé un ambassadeur qui reste à confirmer, qui a comparé l'Union européenne à l'URSS et en indiquant qu'il avait contribué à la chute de l'URSS et qu'il pourrait donc faire la même chose.
Un ambassadeur à Bruxelles.
Auprès de l'Union européenne. Oui.
Qui doit porter le burden, comme vous disiez, le fardeau financier, et quelles conséquences la peut-il avoir sur l'équilibre de la planète du côté de chez nous?
C'est en effet toute la question qui agite les milieux atlantiques, transatlantiques, depuis les années 70, depuis que les Américains reprochent aux Européens de ne pas dépenser suffisamment et réunion de l'OTAN ou conseil de l'OTAN après conseil de l'OTAN, tous les ministres de la Défense américains fixent des objectifs, 2% de dépenses déjà dans les années 70 aux Européens, que ceux-ci ne remplissent pas. Et évidemment, on peut en même temps remarquer que la présence même de l'OTAN et de la garantie américaine anesthésie en quelque sorte l'esprit de défense européen et que, puisqu'on sait que les Américains sont là également pour leurs propres intérêts, pourquoi dépenser beaucoup plus?
Seule la France a approché, n'y atteint pas les 2%, la Grande-Bretagne aussi pour les autres, on est nettement en dessous.
Oui, alors il y a bien sûr des différences entre pays européens et la culture stratégique est très différente d'un pays à l'autre. En France et en Grande-Bretagne, avec le maintien d'une armée et des interventions qui n'ont jamais vraiment cessé, des interventions militaires extérieures, et en revanche d'autres pays, du côté de l'Espagne, de l'Italie, du côté de l'Allemagne, bien sûr, et pour des raisons qu'on connaît, où en effet cette culture stratégique est très différente, et ce sont bien eux que Donald Trump vise quand il accuse les Européens de ne pas payer suffisamment.
Vous placez là, Justin Weiss, dans le cours du dernier demi-siècle, en remontant à Truman, un peu plus d'un demi-siècle, mais il faut que nous commencions par aller regarder bien plus loin en arrière, puisqu'à peine les États-Unis d'Amérique constitués, s'est posé la question de savoir si devrait dominer l'isolationnisme, si l'Amérique devrait rester chez elle, regarder à distance ce qui se passait du côté de l'Europe, à grande distance, ou si au contraire il y revenait pour des raisons soit morales, soit stratégiques, de s'en mêler en telle ou telle occurrence.
Oui, c'est le balancement traditionnel, mais rappelons-nous surtout de ce qui prédomine au cours du premier siècle ou siècle et demi de politique étrangère américaine, après la fondation des États-Unis, c'est le testament de Washington, hein, c'est le message d'adieu de 1796, dans lequel Washington, souhaitant par-dessus tout préserver l'unité de son pays et le préserver aussi des divisions, notamment entre Nord et Sud, que la politique étrangère peut exacerber, le Sud étant plus proche des Français, en gros, les Jeffersoniens étant plus proches des Français et les Hamiltoniens et le Nord étant plus proches des Britanniques, Washington dit pourquoi, en entremêlant notre destin à celui d'une partie de l'Europe, devrions-nous, disons, risquer notre destin et notre unité nationale? Il vaut mieux se tenir à l'écart des jeux de puissance de la vieille Europe et de fait, en dépit des tentations idéalistes qui ne tarderont pas à se faire jour, c'est bien ça qui prédomine jusque en 1917 précisément. Ce qui n'empêche pas, je le précise, hein, il s'agit bien de ne pas se mêler des jeux de puissance européens, ce qui n'empêche pas une expansion tout au long du 19e sur le continent américain, dans le Pacifique et dans les Caraïbes.
Nous allons y venir, c'est la fameuse doctrine de Monroe qui est ultérieure de 2 ou 3 décennies. Un ou deux extraits de la déclaration de Washington, car elle est topique, enfin, elle sonne d'une manière qui est propre à nous intéresser. Gardons la distance, l'Europe. Il n'emploie pas le mot neutralité par prudence, mais c'est bien cela qui transpire de son propos, de cette déclaration, qui est son discours d'adieu, son testament en fait. L'Europe a des intérêts qui ne nous concernent aucunement ou qui ne nous touchent que de très loin. Intéressant à rappeler aujourd'hui dans l'atmosphère des débuts de Donald Trump. Il serait donc contraire à la sagesse de former des nœuds qui nous exposeraient aux inconvénients qu'entraînent les révolutions de sa politique, la politique de l'Europe. Quand nous aurons pris des mesures propres à faire respecter notre neutralité, les nations étrangères qui connaîtront l'impossibilité de nous rien enlever ne se hasarderont pas légèrement à nous provoquer et nous pourrons choisir la guerre ou la paix selon que l'ordonnera notre intérêt d'accord avec la justice. Fin de citation. L'intérêt, la justice. On est là toujours à la rencontre d'un esprit stratégique assez concret et d'autre part l'idée d'une destinée manifeste, l'idée d'un devoir moral de parler d'une voix qui éthiquement sonne différent autour de la planète.
Exactement, avec ce balancement, ce modèle unique, cette cette cité sur la colline qui brille, est-ce qu'il faut la préserver? Et c'est plutôt l'option des Jeffersoniens et plus généralement des isolationnistes, ou est-ce qu'au contraire il faut en faire bénéficier le reste du monde, des lumières américaines en quelque sorte? Ce sera le wilsonisme, mais même avant on voit d'autres tentations. Après tout, c'est Jefferson lui-même qui parlait d'empire de la liberté pour les États-Unis.
Jefferson a été ambassadeur en France au début de la Révolution française. On peut encore saluer sa statue devant la maison de la Légion d'honneur sur le bord de la Seine, dans le 7e arrondissement.
Et président américain, et un président qui, justement, au fond, s'adapte à ce rôle nouveau et envoie l'expédition Lewis and Clark pour, disons, agrandir les horizons américains et mène une politique qui n'est pas finalement si isolationniste que ça. Mais enfin, c'est tout de même ça qui prédomine pendant le siècle ou le siècle et demi qui suit l'établissement des États-Unis.
De quelle expédition s'agit-il, rappelez-nous?
Lewis and Clark, donc une expédition de scientifiques qui vont se lancer vers l'ouest, et notamment le nord-ouest, et cartographier, recenser, documenter cet ouest américain qui va être une terre de conquête, en réalité, progressivement, jusqu'en 1890, où on déclare la frontière, donc ce fameux horizon des États-Unis fermé, puisque tout le continent a été conquis aux dépens largement des populations indiennes, et commence alors, elle avait un peu commencé auparavant, mais commence alors l'expansion ailleurs, notamment dans le Pacifique, notamment en 1898 avec la guerre contre l'Espagne et Cuba, les Philippines et les interventions nombreuses, mais qui encore une fois laissent les États-Unis à l'écart des jeux de puissance européens. Et c'est ça qui est renversé en 1917.
C'est la doctrine de Monroe dont il s'agit, le président Monroe, au début des années 1820, qui affirme que on ne doit pas se mêler des affaires d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud à partir de l'Europe, et que de son côté, on ne doit pas s'attendre à ce que les Américains aillent intervenir dans les querelles du vieux continent. C'est le fameux big stick.
Oui, alors il y a en effet le fait de vouloir tenir les Européens à l'écart des affaires d'Amérique latine au début du 19e siècle, et presque un siècle plus tard, il y a le corollaire à la doctrine Monroe, qui est en quelque sorte la prise de responsabilité américaine, où les Américains disent « Bon, puisque les Européens n'interviennent pas, il faut tout de même qu'une puissance mette de l'ordre, que ce soit pour régler une guerre civile, assurer le paiement des dettes, d'où les interventions à Saint-Domingue, à Haïti, au Nicaragua, au Mexique et ailleurs. » Et en effet, c'est ça qu'on appellera le Big Stick, c'est-à-dire cette possibilité, ces corps expéditionnaires qui vont en quelque sorte faire régner l'ordre dans l'arrière-cour américaine.
Le gros bâton, Big Stick.
Le gros bâton, exactement, et qui évidemment repose sur une armée qui reste très modeste en réalité. Les vraies puissances militaires de l'époque sont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France. Les États-Unis développent une puissance navale très importante à partir des années 1890, mais son armée de terre reste très modeste.
C'est cette puissance navale qui leur permet d'intervenir à Cuba en 1898, et d'autre part aux Philippines, dont ils font de fait une colonie, nous en parlions dans une émission récente, à la fin du 19e siècle, colonie américaine.
Exactement.
Lorsque éclate la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, on va trouver concentré du côté de Washington, aux États-Unis en général, cette opposition entre le sentiment de l'isolation nécessaire et légitime, occupons-nous de nos affaires, et d'autre part, le moment où survient l'idée qu'on ne peut pas laisser l'Europe continuer à se déchirer sans que l'Amérique ait son mot à dire. C'est Wilson, dans son évolution, qui représente cela en conduisant l'évolution de son pays vers l'idée d'une intervention, à quoi il était tout à fait réticent en 1914.
Oui, et même ce qui faisait l'objet pour lui d'un thème de campagne. Il promettait de garder l'Amérique hors de la guerre et de ne pas l'engager, justement, en violant le testament de Washington, dans les jeux de puissance de l'Europe. Seulement, au fur et à mesure que se déroule la guerre, 14, 15, 16, il s'aperçoit que de nombreux liens vont le forcer, de nombreux liens avec la Grande-Bretagne et la France, notamment, vont le forcer à prendre parti. La neutralité qu'il déclare est de plus en plus impossible du fait de la guerre sous-marine à outrance allemande, et puis aussi du fait des liens financiers qui unissent la Grande-Bretagne, qui emprunte de plus en plus aux États-Unis. Et c'est donc le fameux thème de la guerre des banquiers, c'est-à-dire de l'argent que doivent les puissances européennes du côté de l'entente aux financiers américains et qui rendent périlleux la continuation de cette neutralité parce que si les puissances de l'entente ne prévalent pas, les États-Unis risquent d'y perdre gros. Il y a bien sûr aussi une affinité politique, mais en réalité, ce que visait Wilson avant tout, c'était un règlement politique qui assure la paix pour le long terme. Et pour cela, si les Allemands étaient prêts à lui, disons, à lui donner crédit, il aurait été prêt, lui, à faire un geste à leur égard.
Il faut dire qu'il y a une colonie allemande très importante aux États-Unis qui pousse évidemment Wilson à ne pas intervenir dans la guerre. Mais le déclic, il vient de Berlin, lorsque le grand état-major, Ludendorff et Hindenburg, se persuade que la temporalité de la guerre doit permettre que on organise un blocus de la Grande-Bretagne et de la France et que la guerre cessera au profit de l'Allemagne avant que les Américains aient été prêts à y intervenir. C'est la grande erreur. Le premier livre de Gaulle s'appelle « La discorde chez l'ennemi ». Il a commencé à l'écrire en captivité et construit entièrement autour de l'idée que le drame allemand, sa défaite, vient du fait que le pouvoir civil ait renoncé à son autorité devant l'état-major et que celui-ci ait fait cette immense erreur d'analyse temporelle que je viens de dire.
De vouloir prendre de vitesse alors que l'état-major français, je cite, attend les Américains et les chars. Et qu'en effet, l'intervention américaine en avril 1917 va amener... Alors, pas tellement du matériel, parce que encore une fois, l'armée américaine est très petite à cette époque et n'est pas très bien équipée, mais des hommes en grande quantité et un renfort important, y compris sur le plan financier, mais enfin surtout des hommes qui sont prêts à se battre et à soutenir les armées françaises et britanniques.
Dans notre réflexion, Justin Weiss, sur l'évolution du comportement américain des États-Unis par rapport à l'Europe, c'est évidemment un moment décisif, ce changement de 1917. Et en même temps, on va retrouver, vous l'évoquiez, l'idéalisme de Wilson, les fameux 14 points, avec la conviction qu'intervenir, ce sera aussi enraciner une certaine morale des relations internationales dont les Américains se considèrent comme les héros.
Oui, et sinon une morale, du moins des règles du jeu nouvelles. Wilson était fasciné, était un constitutionnaliste, était un professeur de droit. Il voulait remplacer les règles de force, ou disons le jeu de la force par des règles de droit. Et c'est ça qu'il vise en effet à travers les 14 points, et notamment le 14e, l'institution d'une ligue qui sera la Société des Nations qui permette de garder ça. Mais il faut bien voir que cette intervention, vous la décriviez comme historique. Et en effet, pendant tout le 19e siècle et le début du 20e siècle, si les États-Unis peuvent se permettre de ne pas intervenir dans les jeux de puissance européens, c'est que c'est largement la Grande-Bretagne qui le fait en réalité, à la fois par sa puissance maritime et par le fait qu'elle équilibre les puissances sur le continent, évitant que l'une d'entre elles ne prenne le pas sur les autres. Et c'est la rupture de cet équilibre qui va nécessiter que les États-Unis eux-mêmes s'en mêlent et appuient, fassent pencher la balance du côté de la France et la Grande-Bretagne. Et forcé d'intervenir, Wilson, en effet, essaye de mettre en place un système qui se stabilise de lui-même, qui sera donc la Société des Nations. Simplement, très vite, cette Société des Nations, d'une part, les conditions de la paix sont telles que les problèmes de fond de la guerre ne sont pas réglés, problèmes financiers, problèmes de rancœur, problèmes de territoire, et que d'autre part, il échoue à faire entériner la Société des Nations par son propre congrès en 1920, et l'absence des États-Unis de la SDN lui porte un coup fatal. Peut-être aurait-elle pu être plus robuste s'il n'y avait pas eu le problème des réparations de guerre, de ses rancœurs, et surtout la présence des États-Unis au sein de la SDN.
La majorité du congrès, à partir de 1920, est républicaine.
Oui.
Ce qui pose la question des limites du pouvoir d'un président des États-Unis en politique étrangère, mais de cela, nous parlons la semaine prochaine, plus directement avec Pierre Mélandry. Le changement est effectivement essentiel parce que Wilson n'a pas trouvé le moyen. Peut-être aurait-il pu se faire accompagner par des représentants du Parti républicain. Les choses auraient peut-être été différentes. Quoi qu'il en soit, il y a une rupture en sens inverse puisque l'Amérique va se retirer. Je vais vous faire entendre un document sonore qui a beaucoup de prix pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Clemenceau. C'est la seule archive où on entend sa voix. Il est allé en 1922 à titre personnel, sans mandat spécifique, à la fois remercier les Américains et leur dire que ils doivent éviter de se retirer complètement de la vie de l'Europe parce que cela pourrait avoir des inconvénients. L'extrait que nous avons, c'est la seule archive donnant la voix de Clemenceau, semble-t-il. Dans cet extrait, il remercie le peuple américain de son aide. Dans d'autres, dont nous ne possédons pas la version sonore, dans d'autres, il vient leur demander aussi d'être de nouveau présents parmi nous et de servir davantage le traité de Versailles que Wilson a évidemment contribué tout droit à rédiger avec Clemenceau et le Britannique Lloyd George. Écoutons Clemenceau, c'est émouvant.
Je viens vous demander ce que vous voulez faire pour aider la France, pour protéger la démocratie. À deux reprises différentes sur ce sol de l'Amérique, nous avons livré ensemble de magnifiques batailles qui ont abouti au plus brillant succès. Et voilà que cette visite, qui est la gloire de nos deux peuples, l'occasion s'est présentée pour vous de nous la rendre, et vous l'avez fait avec une générosité vraiment américaine. Notre urgent besoin était d'avoir l'Amérique à nos côtés pour la bataille. Nous avons attendu longtemps pour être venus. Bientôt, sous le commandement direct du général Pershing, 22 divisions de 27 000 hommes chacune, avec l'aide de 4 divisions françaises, s'emparaient de la boucle de Saint-Mihiel après une dure bataille qui restera comme l'une des plus belles de la guerre. Le général Pershing était récompensé, nous étions tous récompensés de l'effort. La France n'a pas été seulement envahie, elle a été dévastée, systématiquement, cruellement, avec une méthode de sauvagerie même dans les temps les plus barbares, ne s'étaient pas rencontrés.
Au fond, Clemenceau, Justin Weiss, au fond, tout en remerciant les États-Unis, vient leur dire « Nous avons des droits sur vous, puisque nous avons été détruits et que vous êtes venus ensuite organiser la paix ». Les rapports entre Clemenceau et Wilson sont intéressants, parce qu'il y a une vraie amitié qui est née, et en même temps, chez Clemenceau, l'idée que le réalisme était violenté par l'idéalisme de Wilson, dont il disait « il plane au-dessus des faits qui ont l'inconvénient d'être. Vu d'aujourd'hui, ces années 20, est-ce qu'elles ne peuvent pas annoncer déjà celles d'aujourd'hui ?
Alors, en un sens, oui, les années 20 et je dirais les années 30 aussi. Pourquoi ? Parce que dans les années 20, très vite après l'échec de Wilson, c'est le réalisme, une forme de réalisme qui prévaut, des traités séparés, qui cohabite avec une forme d'idéalisme un peu débridé, hein, le pacte Briand-Kellogg en 1928, qui vise à bannir la guerre comme instrument de relations internationales, mais qui évidemment ne repose sur aucun mécanisme de mise en œuvre et de respect. Ce qui compte, je pense, si on prend un peu de recul par rapport à ces années 20 et 30, et les années 30, c'est-à-dire la crise économique, le repli peu à peu des États-Unis sur eux-mêmes, c'est la désertion des États-Unis, c'est-à-dire l'abandon de leurs responsabilités de première puissance que la Première Guerre mondiale leur a octroyée. Après la Première Guerre mondiale, l'Amérique est la première puissance. Or, que voit-on dans les années 20 et 30 ? On voit une forme d'isolationnisme avec son triptyque, refus de l'immigration, protectionnisme, hein, notamment le tarif Smoot-Hawley de 1930, et puis refus d'intervenir militairement pour défendre l'ordre. Or, en particulier dans les années 30, quand cet ordre est remis en cause, par le Japon en Mandchourie dès le début des années 30, par l'Italie en Éthiopie en 35, par les remises en cause de Hitler ensuite, hein, la remilitarisation de la Rhénanie et puis bien sûr les conquêtes de Hitler. Et à tous ces moments-là, on voit l'Amérique non pas assumer son rôle de première puissance, mais tout au contraire, se retirer sur elle-même, jouer un rôle protectionniste qui accentue la contagion de la crise partout, qui contribue à la crise sociale et donc à la crise politique. Et finalement, tout cela aboutit en 1938 à Munich au soutien, en fait, par la première puissance mondiale, c'est-à-dire par Roosevelt, à Chamberlain et Daladier. Roosevelt télégraphie à Chamberlain « Goodman ». Lorsqu'il signe ces accords de Munich, donc la politique d'apaisement. Et ça, en l'absence d'une puissance hégémonique qui fait régner l'ordre et qui impose un minimum de règles, c'est la dissolution de l'ordre international.
Et cela vous paraît pouvoir annoncer le trumpisme qui qui commence.
Ah bah le parallèle existe. La question est posée puisque la puissance relative des États-Unis par rapport au reste du monde a beaucoup décliné au cours des 20 dernières années à cause de la montée en puissance des pays émergents, notamment de la Chine, mais aussi d'autres. Et puis, bien sûr, l'arrivée de Trump pose cette question de l'ordre libéral, de l'ordre international libéral, c'est-à-dire le respect des règles, l'ouverture des frontières. Hein, et on retrouve le triptyque chez Trump, anti-immigration, anti-libre-échange ou même protectionnisme et refus d'intervention, en tout cas refus d'intervention militaire proclamé par Trump. Et donc la question de ce maintien de l'ordre mondial en l'absence de volonté des États-Unis de jouer ce rôle-là est posée.
C'est très important d'insister là-dessus. Ce qu'on peut ajouter, c'est que néanmoins il y a une présence des hommes d'affaires et des banquiers américains, notamment dans les années 20, qui frappent les contemporains en Europe. En retrait militaire, retrait politique, mais présence économique, avec l'idée qu'il est possible d'être présent dans ce champ sans l'être du point de vue diplomatique et militaire.
Oui, qui est une illusion. Toute la leçon des années 20 et 30, c'est que tout ceci est indissociable et que l'Amérique ne peut prospérer dans un monde à feu et à sang, et en particulier dans une Europe à feu et à sang, et qu'elle a besoin de cette stabilité, qu'elle a besoin de frontières ouvertes, de marchés ouverts, etc. Et ça sera toute la lutte entre 36 et 41, entre ceux qui voudront intervenir pour faire pièce à l'Allemagne hitlérienne et également au Japon impérial, d'un côté, et puis les isolationnistes de l'autre, et entre autres Charles Lindbergh et son association, ou son comité America First. America First, qui est le slogan repris par Donald Trump ces derniers temps.
Oui, on pourrait voir prospérer la formule fameuse de Tocqueville qui disait « La politique des Américains vis-à-vis du monde entier est simple. On pourrait presque dire que personne n'a besoin d'eux et qu'ils n'ont besoin de personne. Leur indépendance n'est jamais menacée. » Je ne sais pas si Trump lit souvent Tocqueville, mais c'est un peu l'idée, non?
En tout cas, cette formule s'applique au XIXe siècle sans difficulté, en particulier grâce aux atouts de la géographie américaine, c'est-à-dire deux voisins pacifiques, largement pacifiques, et deux océans qui protègent les États-Unis. En revanche, à partir du moment où la révolution industrielle a lieu, à partir du moment où l'Amérique s'est internationalisée, exporte, importe, commerce, investit, etc., il n'est plus possible pour elle de se désintéresser du reste du monde et notamment de l'équilibre en Europe. Et c'est ça qui conduit, c'est ça la grande leçon des années 20, qui conduit Roosevelt, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à refaire, au fond, à reprendre un peu les idéaux de Wilson, c'est-à-dire de mettre en place un système de sécurité collective, mais cette fois beaucoup plus réaliste et auquel les États-Unis apportent tout leur poids. C'est ça la grande différence entre l'ONU et la SDN.
Mais il faut s'arrêter un instant sur la période de 1940 que vous évoquiez, Justin Weiss, dans cette émission consacrée aux relations entre les États-Unis d'Amérique et la défense de l'Europe. Il faut s'arrêter à 1940. C'est en vain que les Français et les Anglais, surtout les Français, demandent l'appui de Roosevelt, les avions de Roosevelt au moment de la débâcle. Et puisque vous parlez de Lindbergh, on peut peut-être citer le livre tout à fait stimulant de Philip Roth, qui est une histoire fiction, une uchronie, What If, où il imagine que Lindbergh ait été élu à la place de Roosevelt en 1940, au moment où il tenait des propos qui étaient à la fois très pro-germaniques, qui étaient antisémites également, les juifs coupables. Lindbergh aurait conduit le monde et les États-Unis dans une toute autre direction, nous raconte Philip Roth.
Oui, cette dystopie qui était assez possible, finalement, ne s'est pas réalisée parce que Roosevelt, justement, a eu la sagesse d'aller lentement et de travailler l'opinion publique sans la brusquer. Ce qui fait qu'il ne peut pas répondre aux demandes d'aide françaises, ni d'ailleurs vraiment britanniques. Alors, il augmente peu à peu par des tas de mesures short of war, c'est-à-dire qui ne constituent pas une entrée en guerre. Mais ce qui va vraiment faire basculer, ça n'est pas tant la mobilisation de l'Amérique, c'est surtout, évidemment, l'attaque de Pearl Harbor, c'est surtout le 7 décembre 41 qui très vite déclenche l'entrée en guerre contre le Japon, puis quelques jours après contre l'Allemagne.
Il faut dire que Lindbergh, dont on rappelle que c'est le premier à avoir franchi en avion l'Atlantique, ou renonce à ses positions antérieures, et c'est la fin du roman de Philip Roth qui s'appelait The Plot Against America, le ouais. Complot contre l'Amérique. Alors je vous suis maintenant au-delà de 1941-1945 où les Américains ont été bon gré mal gré, contraint de jouer un rôle planétaire.
Oui, et puis plus concrètement, de jouer un rôle d'équilibreur, entre guillemets, de l'Europe. La Grande-Bretagne n'est plus en mesure de le faire. Elle n'est plus en mesure d'assurer le rôle, alors très concrètement, sur le continent européen et ensuite au-delà, hein, en 47, notamment en Grèce et en Turquie, ce qui contraint les États-Unis, qui se seraient volontiers retirés en fait, hein, en 45. Il y a une très forte démobilisation. L'armée américaine passe de 10 millions à 1 million en quelques années, avec des problèmes intérieurs. Et au fond, on pense que tout cela est fini et que l'ONU va pouvoir maintenir la paix. Mais très vite, la guerre froide arrive et l'Amérique, instruite des errements des années 20 et 30, décide qu'il est dans son intérêt vital de s'assurer de la défense de l'Europe et de la bonne santé, y compris économique, de l'Europe.
Les années 1950, ce sont celles, Justin Weiss, du grand débat sur le réarmement de l'Allemagne, qui est après tout une façon de dire que il faut que, en dépit de tous les souvenirs d'horreur et la mémoire de la guerre, il faut que l'Europe prenne son indépendance militaire, et elle ne peut la trouver qu'avec une présence forte de l'Allemagne, et avec son argent au service d'une armée. Et c'est le grand débat sur l'armée européenne, dont l'actualité peut également frapper, puisque sous la menace de Trump, on a le sentiment qu'il peut naître en Europe, vous allez nous le dire, une conviction qu'on ne peut pas éternellement être, comme le disait Kagan, un publiciste américain, accepter que nous soyons Vénus tandis que les États-Unis soient Mars. Et par conséquent, il est intéressant de voir ce qui s'est passé dès le début des années 50 avec l'idée d'une armée européenne. Il y a eu des plans qui peuvent annoncer les ambitions d'aujourd'hui. Je vais vous faire entendre Robert Schuman, le père de l'Europe, le père de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et qui évoque en février 1951, lors d'une conférence des délégués européens consacrée au projet d'une armée européenne, qui évoque de la sorte ce que pourrait être cette armée dont on reparle aujourd'hui.
Le gouvernement français a exposé dans un mémoire qui vous sera distribué sa conception d'une armée européenne. À l'intérieur de la force atlantique trouvera sa place une armée européenne, instrument permanent de la sécurité de notre continent, élément essentiel de l'intégration de l'Europe. Mon gouvernement a proposé que la création de cette armée s'accompagne de l'établissement d'institutions politiques. Il s'agit au début de désigner un commissaire européen à la défense, collaborant avec un conseil des ministres, sous le contrôle d'une assemblée interparlementaire. Sans de telles institutions, une armée commune à des pays démocratiques ne se conçoit pas. Elles présideront à son recrutement, à son entraînement et à son entretien. Le commissaire européen à la défense assurera la mise en condition des contingents fournis par chaque pays et la formation d'unités européennes. Il ne suffit pas de mettre sur les manches de nos soldats et de nos officiers l'écusson Europe. Et il s'agit de recruter dans les pays associés, selon des règles à définir, des contingents soumis à une autorité commune, dotés de statuts et de règlements analogues, équipés d'armements identiques, de les insérer dans de grandes unités comprenant des contingents de nationalités diverses. Aux soldats et aux officiers de l'armée future, il faut un esprit européen. Quelle que soit leur origine, il faut sans tarder les habituer à vivre ensemble, à s'instruire, à manœuvrer en commun. À défaut de cela, nous ferions œuvre vaine et factice.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Un défaut de cela, une œuvre vaine, on pourrait presque reprendre ces mots aujourd'hui, Justin Weiss.
Oui, ce qui est frappant avec le projet de la CED, c'est son caractère prématuré, en fait.
Communauté européenne de défense.
C'est l'idée que les nations européennes ne sont pas encore prête. L'idée est visionnaire, elle est logique en un sens, puisque ces pays partagent des intérêts communs, puisqu'il faut résoudre le problème du réarmement de l'Allemagne, dont on ne peut pas vraiment se passer et qui doit pouvoir se défendre et contribuer à la défense commune sans la laisser repartir dans ses errements des années 20 et 30 et constituer à nouveau une menace pour l'Europe. Et donc la solution, c'est d'européaniser l'Allemagne. Simplement, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que les souvenirs de la guerre sont encore trop importants et que, en dépit de la menace qui pèse sur l'Europe, l'idée de voir l'Allemagne intégrée dans cette armée européenne ne fonctionne pas vraiment. Et les Français la proposent, certains Français visionnaires la proposent, et les Français finissent par la tuer. En réalité, quelques années plus tard, en 54, après de longs débats, en août 54,
sous un gouvernement Mendès France,
la question préjudicielle est votée et donc la CED n'est pas entérinée, ce qui ouvre la voie au réarmement de l'Allemagne, mais dans le cadre otanien. En réalité, on est quelques années plus tard et donc cette idée qu'on aurait pu construire l'Europe sur la défense, autour de la défense, plutôt que ce qui sera fait quelques années plus tard avec le traité de Rome, dont on fête aussi l'anniversaire très bientôt, autour de l'économie et aussi des questions atomiques, cette idée-là, finalement, n'aura pas vécu. Alors, elle n'aura pas vécu également parce que les États-Unis sont là. Et que les puissances européennes sont occupées à d'autres choses, les Britanniques, mais surtout les Français, à des guerres de décolonisation.
L'Indochine, l'Algérie.
L'Indochine, puis l'Algérie, et puis beaucoup d'autres préoccupations.
Y compris l'expédition de Suez, sous Guy Mollet, en 1956.
Voilà, et donc on est dans un entre-deux où les puissances européennes à la fois gardent, bien sûr, leur souveraineté et sont normalement, disons, des puissances qui agissent pour leurs intérêts indépendamment des autres, mais en réalité, la présence américaine qui vise à dissuader toute tentative du bloc de l'Est de s'emparer de territoires en Europe agit aussi comme une réassurance. Hein. Après tout, les États-Unis soutiennent, y compris financièrement, la France dans sa guerre d'Indochine, et donc on a une sorte de semi-indépendance. Et tout cela ne fait pas encore, ne permet pas encore de produire une solution européenne. Cette solution est prématurée et donc la communauté européenne de défense périclite et donne voix à l'OTAN. Alors bien sûr, il y aura l'Union de l'Europe occidentale, il y aura l'UEO qui sera une sorte d'ersatz de la communauté européenne de défense, mais qui ne prospérera jamais puisque l'OTAN est là. Et ce qui est sérieux face à la menace soviétique, c'est bien l'OTAN, c'est la présence américaine qui se renforce considérablement après 1950, c'est-à-dire après la guerre de Corée, avec un commandement intégré et une présence des Américains et des Canadiens et d'autres sur le sol européen, y compris en France.
Américains et Canadiens, Américains surtout, ayant souhaité que l'Europe s'arme, effectivement, ayant soutenu la communauté européenne de défense et constatant son échec, admettent que leur présence doit demeurer forte. C'est une évolution qui va dans un sens qui aujourd'hui pourrait éventuellement être mise en cause, non ?
Oui, se pose d'ailleurs dès ce moment-là la question du coût, et en particulier pour l'administration Eisenhower qui veille à l'équilibre budgétaire, la question des moyens de la défense de l'Europe qui coûte cher, et donc le recours aux armes nucléaires. Et très rapidement, cette question nucléaire se pose parce que la seule façon de défendre efficacement cette petite péninsule européenne occidentale face à l'immense l'Asie URSS et puis aux satellites de Moscou, ça n'est pas de mettre l'essentiel de l'armée américaine en Europe, mais c'est d'y mettre des armes nucléaires. Et donc, cette question-là de l'ordre nucléaire en Europe est intimement liée aux questions, budgétaires pour les États-Unis.
Ces années 50 sont, du point de vue qui nous occupe, place des États-Unis dans la défense de l'Europe, marquée à la fois par le désir d'un désengagement américain et l'obligation, de fait, d'une présence de plus en plus forte. Ce qui conduit aux années 60, avec la politique spécifique du général de Gaulle, qui mérite probablement qu'on s'y attarde un instant du point de vue qui nous occupe ce matin, Justin Weiss.
Oui, en fait, la stratégie, la grande stratégie américaine consiste à s'engager pour la défense de l'Europe, puisque c'est le cœur du système international encore à cette époque-là, et donc à conduire une guerre froide, mais qui se matérialise par des guerres chaudes en Asie. C'est-à-dire, pour conserver leur crédibilité, les États-Unis se battent en Corée d'abord, de 50 à 53, et puis ensuite, peu à peu, c'est l'engrenage au Vietnam, suite à la guerre d'Indochine, suite à la guerre des Français, et la nécessité de faire pièce à l'URSS partout dans le monde, mais avec cette idée que le cœur, le cockpit en quelque sorte de la guerre froide et du système international reste Berlin en fait, hein, et reste la question de Berlin et la défense d'une Europe whole and free, c'est-à-dire une Europe unie, entière et en même temps en liberté, liberté vis-à-vis du communisme.
Berlin divisé en quatre avec l'érection du mur au début des années 1960. Mais si on s'attache à un parallèle entre ces années-là et aujourd'hui, il y a néanmoins une grande différence, c'est que la Russie n'est plus exactement l'URSS.
Non, en réalité, elle ne menace sérieusement que certaines portions du territoire européen, ce qu'elle appelle elle-même son étranger proche, d'une part, et puis que certains territoires de pays qui font partie de l'Alliance Atlantique, et en particulier les pays baltes, de façon évidente. D'où toute cette question, disons, des frontières, de cette frontière qui a reculé à la chute de l'URSS, mais qui, évidemment, qui est donc le vide résultant de ce recul de la frontière a été comblé par une expansion de l'OTAN, inquiétant en retour la Russie et conduisant Poutine à remettre en cause cette expansion de l'OTAN. On l'a vu notamment en 2008 autour de la question de l'extension à la Géorgie et surtout à l'Ukraine, hein, et l'Ukraine comme territoire pivot.
Les années 60 sont marquées par la politique du général de Gaulle, ce que Maurice Weiss, dans un livre notoire, a la grandeur, le point de vue de De Gaulle, du point de vue qui nous occupe, présence ou non de l'Amérique, il faut l'évoquer, et par sa bouche naturellement. Et voici cette explication du retrait de la France de l'OTAN qu'il décide en 1966. Il s'en explique un peu plus tard à la télévision le 10 août 1967.
Le progrès, l'indépendance, la paix. Voilà donc quels sont les buts conjugués que poursuit notre politique. Il va de soi que cette action d'ensemble est désapprouvée par ce qu'il faut bien appeler l'école du renoncement national. Aux esprits, aux partis, aux journaux qui lui appartiennent, l'idée même que la France puisse jouer un rôle qui soit le sien apparaît comme impossible, dérisoire, voire scandaleuse. Indépendamment des partisans d'un régime totalitaire qui ne considère ce qui se passe chez nous qu'en fonction de leur visée de destruction, c'est bien cette étrange passion de l'abaissement qui inspire tant d'hostilité à l'égard de la grande entreprise du renouvellement français. Dans le drame célèbre de Goethe, Méphisto se présente ainsi. Je suis l'esprit qui nie tout. Or, en écoutant les conseils de Méphisto, l'infortuné docteur Faust va de malheur en malheur jusqu'à la damnation finale. Françaises, Français, nous n'en ferons pas autant. Repoussant le doute, ce démon de toutes les décadences, poursuivons donc notre route. C'est celle d'une France qui croit en elle-même et qui, par là, s'ouvre l'avenir. Vive la République, vive la France.
De Gaulle, 10 août 1967, les États-Unis d'Amérique, la défense de l'Europe. Quel regard peut-on aujourd'hui, Justin Weiss, jeter sur ce propos et plus largement sur la politique du général ?
Sans doute faut-il d'abord rappeler les conditions dans lesquelles ce discours est prononcé lorsqu'il tape à la fois sur les atlantistes, ceux qui veulent soumettre la souveraineté française aux États-Unis par, disons, une fidélité ou un attachement ou un alignement sur Washington d'un côté et sur les communistes de l'autre.
Les totalitaires.
Voilà, il tape sur l'un ou l'autre. Mais il faut bien rappeler dans quelles conditions ça se fait pour ne pas faire d'anachronisme sur ce qu'est le gaullisme. Lorsqu'il revient au pouvoir, De Gaulle trouve une France qui accueille des bases militaires américaines en son sein, sur lesquelles elle n'a pas de contrôle, sur lesquelles circulent des armes nucléaires dont la France n'est pas informée, elle ne sait pas ce qui se fait. De Gaulle demande ces choses-là. Elle voit une partie de son armée subordonnée à un commandement étranger, et donc recouvrer sa souveraineté, son indépendance, avait un sens fort à cette époque-là. Il ne s'agissait pas de rompre avec l'Alliance Atlantique, et De Gaulle réaffirme son soutien à plusieurs reprises à la famille occidentale, au
D'ailleurs,
camp occidental.
D'ailleurs, il l'a manifesté au moment de la crise de Cuba, quelques années
en particulier, et aussi lors de son voyage aux États-Unis, lors d'un, notamment un discours au Congrès, où il marque bien l'appartenance de la France à ce camp occidental, dans des formules frappantes que les gaullistes ou les gaullistes autoproclamés de maintenant feraient bien de relire. Il ne s'agit pas donc de repousser dos à dos États-Unis et totalitaire ou URSS, mais il s'agit bien de s'assurer que la France peut jouer un rôle indépendant au sein de l'Alliance Atlantique ou en dehors de l'Alliance Atlantique, de s'assurer des moyens de cette indépendance.
D'où la bombe atomique.
D'où en particulier la poursuite du programme entamé au cours de la 4e République et son, disons, le fait de mener à bien ce programme, y compris non seulement pour la bombe elle-même, hein, qui explose pour la première fois en 1960, mais aussi par ses vecteurs. Sous-marins, avions, missiles, pour acquérir les vrais moyens de sa souveraineté.
Hourra pour la France ! C'est le cri du général de Gaulle lorsque la première bombe A explose.
Elle est plus grande et plus forte, dit-il, et en effet, elle est plus grande et plus forte, mais ce qui, évidemment, ne l'empêche pas de choisir. Et aujourd'hui, évidemment, et on s'est beaucoup interrogé plus tard, Jacques Chirac, évidemment, le plus gaulliste des présidents après De Gaulle.
Chirac est le plus gaulliste, je ne sais pas, le gaullisme appartient à tout le monde, disait De Gaulle lui-même.
Tout à fait, et d'ailleurs, en un sens, Jacques Chirac en est l'illustration, puisque lui-même, censé être le plus gaulliste des présidents, fait ce mouvement de réintégration du commandement intégré, qui finalement n'aboutit pas, mais qui ne sera parachevé que par Nicolas Sarkozy, le moins gaulliste, dit-on, des présidents français en 2007-2008.
Ne délivrons pas des brevets de gaullisme, ce n'est pas notre rôle ici. Mais Justin Weiss, restons sur ces années 1960 encore un moment, pour bien voir qu'en même temps, De Gaulle est aussi européen, c'est-à-dire qu'il ne veut pas une Europe fédéral, bien sûr, mais il souhaite qu'on avance dans ce sens et que toute réflexion sur sa politique en face de la défense de l'Europe par les États-Unis s'éclaire aussi de la sorte.
Oui, et les tentatives qu'il fait à son arrivée pour instaurer une forme de directoire avec les principales puissances de l'époque, ou autrement dit rééquilibrer le rapport de force au sein de l'Alliance Atlantique, tourne court. Est-ce qu'il...
Le fameux mémorandum proposé aux États-Unis et à l'Angleterre.
Exactement, et le conduisent finalement à en rajouter dans cette prise de distance, une fois que les bases de l'indépendance sont acquises, une fois que le boulet algérien est, disons, a disparu, une fois que les capacités de dissuasion ont progressé, la phase la plus, entre guillemets, gaulliste, la plus indépendante, c'est-à-dire 66-67, le discours de Phnom Penh,
Où il critique la guerre du Vietnam et la position des Américains.
Voilà, en disant qu'il n'y a pas de solution politique. Et puis, bien sûr, le fait de renvoyer l'OTAN, installer Porte Dauphine vers ailleurs, c'est-à-dire vers Bruxelles, où il se trouve aujourd'hui. Mais évidemment, assez rapidement après, en 68, une tonalité un peu moins farouchement indépendante, parce que, malgré tout, la guerre froide se rappelle à lui.
Tchécoslovaquie.
À Prague et ailleurs. Et on voit bien que finalement, il a poussé aussi loin qu'il le pouvait cette indépendance, mais sans quitter la famille à laquelle il appartenait, à laquelle la France appartenait.
C'est un peu artificiel, mais si on jouait un instant Justin Weiss à se demander comment la politique du général de Gaulle dans les années 60 pourrait s'organiser avec ce que dessine Donald Trump. Vous diriez quoi?
Alors, moi je pense qu'il pourrait très bien s'accommoder de Donald Trump, parce qu'au fond, ce que dit Trump va dans le sens de ce que la France a cherché depuis de Gaulle, c'est-à-dire à faire assumer à l'Europe une plus grande part de sa propre sécurité, y compris de son garant ultime qu'est la dissuasion nucléaire. Et en un sens, la France est la moins gênée par cette prise de distance des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Et donc, sans faire parler les morts, je pense qu'il ne s'inquiéterait pas beaucoup de cette évolution de l'Amérique. Hein, il ne disait pas les États-Unis, de l'Amérique. Il avait dit lui-même, pour justifier sa politique, il avait rappelé que les États-Unis étaient venus à deux reprises au secours de l'Europe, mais chaque fois avec beaucoup de doutes sur leur intervention. Et avec chaque fois un retard qui avait laissé l'Europe dévastée, à la fois en 1917 et bien sûr en 1944, c'est-à-dire après plusieurs années de guerre.
Oui, il rappelait qu'il avait fallu des ressorts internes liés à l'intérêt vital des États-Unis pour que ceux-ci vinssent se battre en Europe. Il est clair qu'en 1940, ils ont refusé de venir, ce qui ne diminue probablement pas les motifs de gratitude envers les GI américains ou avec les samizdats de 1917, mais qui relativisent quelque peu les choses et permet peut-être d'apporter une nuance à la fameuse chanson de Michel Sardou que vous vous étonneriez, Justin Vasse, que je vous donne pas à entendre. Les Ricains, c'est une chanson de 1968 qui est en réalité profondément anti-gaulliste.
N'était pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé. Les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Bien sûr, les années ont passé. On est devenus des copains à l'amicale du fusillé. Sont tombés pour rien. Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui.
Vous l'avez demandé, cette chanson de Michel Sardou, Justin Vasse, je vous la donne. Pourquoi y teniez-vous tellement?
Mais je la trouve très intéressante parce que, au-delà de son caractère provocateur et un peu injuste, elle pose des tas de questions à l'historien, des tas de questions contrefactuelles, en fait. C'est-à-dire,
qu'est-ce qui serait passé si?
Voilà. On en parlait tout à l'heure pour le roman de Philip Roth, donc le complot contre l'Amérique. C'est un peu la même question que pose Sardou dans cette chanson provocatrice, c'est-à-dire, est-ce que l'Allemagne aurait prévalu. Mais en fait, derrière cette question-là, il y a, disons, enchâssé dans la première question contrefactuelle, au moins deux autres questions qui sont passionnantes. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que la défense de l'Europe par les États-Unis a permis qu'elle ne fasse pas l'objet d'une offensive soviétique? C'est-à-dire, est-ce qu'il existait réellement ou pas un risque de guerre ou de prise de territoire par Staline et par ses successeurs?
Vous répondez quoi?
Très difficile à savoir, puisque en particulier en Allemagne de l'Est, on a vu tout de même plusieurs prise le coup de Prague, évidemment. On a vu ce qui se passait en Grèce, en particulier lors de la guerre civile. Et en effet, si les Ricains n'avaient pas été là, on peut penser que la Grèce aurait basculé du côté du camp communiste. Donc à partir de là, que se serait-il passé? Là, c'est à chacun de juger. Mais il y a encore une autre question qui me paraît encore plus intéressante, c'est celle de l'unification européenne. Parce que on sait le rôle qu'ont joué les États-Unis, d'abord dans la délivrance de l'Europe du joug nazi, mais aussi ensuite dans la reconstruction de l'Europe, le plan Marshall, et avec le plan Marshall, la demande, l'impulsion pour une unification européenne à travers l'OCDE, c'est-à-dire nous vous donnons ces 13 milliards de dollars, qui à l'époque était une somme considérable, mais vous devez vous unir. Et ça a été l'embryon d'une coordination entre les États européens. Ça a été une des sources de l'Europe.
Mais L'OECD, c'est l'organisation
de coopération et développement économique
qui a servi à mettre en musique l'aide Marshall.
Exactement. Et au-delà, évidemment, toute la question est de savoir si l'extraordinaire aventure de l'unification européenne est due d'abord au mérite de ceux qui en ont été les visionnaires, Monet, Schuman, et puis beaucoup d'Italiens, d'Allemands et d'autres. Si elle est due premièrement à la réconciliation franco-allemande, ou bien si, au contraire, elle est due d'abord à la présence américaine, si au fond elle a été rendue possible par un contexte géopolitique dans lequel l'Europe était en paix parce qu'il y avait un juge de paix, parce qu'il y avait les États-Unis. Vous savez, on dit souvent tout pays a une armée, soit son armée, soit celle d'un autre pays. Et là, très largement, cette défense de l'Europe a été assurée par les États-Unis, ce qui a eu pour effet de désarmer les rivalités de puissance entre pays européens. Autrement dit, l'amitié franco-allemande, la réconciliation franco-allemande, elle a aussi été possible parce que l'Allemagne et la France n'avaient pas vraiment à s'inquiéter d'une reprise de la guerre contre eux. Il y avait la menace soviétique, mais il y avait aussi la garantie américaine. Et donc, si les Ricains n'étaient pas là, est-ce qu'il y aurait eu davantage de rivalité de puissance, comme on en avait vu au cours des 4 ou 5 siècles précédant la Seconde Guerre mondiale en Europe? Et est-ce que l'unification de l'Europe aurait été possible?
Alors, pour conclure cette conversation, Justin Weiss, est-ce que vous êtes sensible à la rupture trumpienne? Ou bien est-ce que, après les réflexions que viennent de refléter notre conversation, notre émission, est-ce que les continuités néanmoins vous paraissent pouvoir rester puissantes?
Les facteurs de discontinuité paraissent énormes, à la fois dans le discours, la fin du soutien à l'unification européenne, la critique de l'OTAN, la tension affichée de Trump de ne plus faire respecter, disons, les règles coutumières, de s'affranchir des traités de libre-échange. Et on a l'impression d'une forte rupture. Cela dit, bien sûr, il faut prendre un peu de recul et réfléchir en historien.
Qu'est-ce que nous faisons ici avec plaisir?
Et cette rupture, je dirais à la fois qu'elle a déjà commencé avec le déclin relatif de la puissance américaine par rapport aux autres puissances, et on l'a vu sous Obama, que peut-être que son ampleur ne sera pas aussi importante. Ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle permet à l'Europe, donne une chance à l'Europe, et en particulier au couple franco-allemand, de faire un bond dans la prise en main de son propre destin. Je ne dis pas dans l'unification ou le fédéralisme, mais en tout cas dans le fait de à la fois augmenter ses capacités de défense propres, qui ne dépendent pas des autres, et en même temps de peser davantage dans le concert mondial, surtout si l'on prend en compte le Brexit et le fait que les îles britanniques sont en train de s'éloigner de plus en plus du continent.
Donc le docteur Faust, pour reprendre le propos du général de Gaulle, ne cédera pas à la tentation de Méphistophélès. Merci beaucoup, Justin Weiss. Vous avez publié une biographie d'un personnage important qui a été le conseiller notamment de Carter, Zbigniew Brzezinski, stratège de l'Empire, chez Odile Jacob en 2015, tout récemment. On vous doit aussi une histoire du néoconservatisme aux États-Unis. Nous avons peu parlé de Bush à une autre occasion, j'en suis sûr, chez Odile Jacob, 2008. Et avec Pierre Mélandry, qui sera mon invité la semaine prochaine, vous avez édité, c'est plus ancien, 2001, L'Empire du Milieu, les États-Unis et le monde depuis la fin de la guerre froide, toujours chez Odile Jacob. Je subodore qu'une réédition dans peu de temps ne sera pas malvenue. Vous pourrez, vous le savez, retrouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores utilisés. Un peu appauvri, je dois dire, cette semaine par le bug qui a frappé l'Institut National de l'Audiovisuel, qui nous a laissé un peu désemparés. Et vous pourrez également écouter
réécouter et télécharger cette émission, la balado diffusée. Samedi prochain, je l'annonçais, nous parlerons des États-Unis, de ses pouvoirs, les limites de ses pouvoirs, checks and balances. Aux États-Unis, c'est tellement important avec l'arrivée de Donald Trump, chacun pourra s'en convaincre. Et je recevrai, je le disais, Pierre Mélandry pour en parler. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec l'appui de Guillaume Cotte et de Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Philippe Baudouin, avec à la prise de son Pierre Faucillon et à la discothèque Nathalie Rouvillain. Et dans quelques instants, vous allez, comme chaque semaine, retrouver Christine Ockrent pour son émission « Affaires étrangères ».